Voici le 139e numéro de votre émission littéraire C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Dans 3 semaines, ce sera Noël et les idées cadeaux sont les bienvenues en cette période. Et le livre dont il va être question ce soir pourrait être une excellente surprise à glisser sous le sapin de Noël. Il s'agit de La Bourgogne pour les nuls et son auteur est notre invité, Bernard Lecomte. Bonsoir.
Bonsoir.
Très heureux, Bernard, de vous accueillir une fois de plus à bord de Wagon Livre. C'est votre deuxième passage. On vous avait accueilli mi-septembre 2012 pour Les derniers secrets du Vatican aux éditions Perrin. À l'heure actuelle, c'est plus de 10 000 exemplaires vendus. Et j'ai même appris très récemment sur votre page Facebook que ces derniers secrets du Vatican, allaient être traduits en russe et allaient être donc disponibles en Russie.
Ils sont traduits en russe. C'était ça ma surprise. D'apprendre en effet qu'il y avait eu un contrat. Les auteurs ne savent pas toujours ce que font les éditeurs. Et donc mon éditeur a passé un contrat avec un éditeur russe. Alors, c'est pas très original de passer des contrats avec les étrangers, surtout sur ces sujets, le Vatican, etc. Tout ça, c'est assez international. Et j'ai été traduit dans beaucoup de langues, donc ça ne m'a étonné qu'à moitié. Mais le russe, c'est la première fois. Et c'est un éditeur, en plus, de Rostov-sur-le-Don. Il faut savoir que Rostov-sur-le-Don est à la Russie, ce que Vierzon est à la France. Donc c'est très, très étonnant pour moi d'avoir reçu dans ma boîte aux lettres un livre signé par moi en langue russe et venant de Rostov-sur-le-Don.
Alors ce soir, vous n'êtes pas devant les micros de Wagon Livre pour parler des papes, vous qui êtes le papophile tant apprécié.
Alors pardon,
papologue et papophile un peu quand même.
Ouais,
on écrit sur ce qu'on aime.
On ne peut pas détester ces modèles et si je m'ennuyais en compagnie des papes, j'aurais évidemment choisi d'autres sujets de recherche. Mais non, j'y tiens, évidemment pas papophile. Vous savez, j'ai l'habitude de dire en matière religieuse, moi, quand je fais mes livres, ma religion, c'est le journalisme. Donc je suis en effet papologue, le mot est amusant et il est beaucoup plus précis.
Vous êtes journaliste et écrivain, ancien grand reporter à La Croix, à L'Express. Vous avez été rédacteur en chef du Figaro Magazine. Vous avez été directeur de la communication du Conseil régional de Bourgogne. Vous êtes installé en Bourgogne. Vous êtes d'ailleurs, vous résidez dans Lyon, à Saint-Denis-sur-Ouanne, qui vous occupe politiquement puisque vous êtes conseiller municipal dans ce petit village.
Alors, occupé est un grand mot. Vous savez, quand il s'agit d'un village de 138 habitants et que vous n'êtes que le 11e conseiller municipal, c'est quand même pas un travail à plein temps. J'ai commencé, moi, ma carrière politique en étant trésorier adjoint du comité des fêtes de cette commune il y a une dizaine d'années. Ensuite, j'ai été adjoint, en effet, troisième adjoint. Là, actuellement, je suis conseiller municipal. Vous voyez que ma carrière politique est quand même assez riche.
Vous êtes depuis 2005 directeur éditorial des éditions de Bourgogne et puis vous présidez depuis 2008 le Club des écrivains de Bourgogne que les auditrices et auditeurs de Wagon Livre connaissent bien puisque grâce à vous et à Evelyne Philippe qu'on embrasse au passage, vous m'autorisez à l'embrasser Bernard.
Très volontiers.
Votre épouse Evelyne Philippe que l'on connaît sur de nombreux fronts pour la promotion du livre et de la culture en Bourgogne. Mais ça, c'est encore une autre affaire, encore que on y revient avec votre dernier écrit, donc La Bourgogne pour les nuls, aux éditions First. Alors, comment le papologue, journaliste d'investigation, se retrouve dans un exercice littéraire très cadré, dans une collection qui pose plus de contraintes qu'elle n'offre de liberté? Vous avez été désigné, choisi, c'était finalement presque un point important, Bernard, sur ses épaules, d'écrire cette Bourgogne pour les nuls.
Alors, c'était d'abord une surprise pour moi, parce que j'ai reçu un jour un coup de téléphone donc d'un éditeur qui me dit très gentiment, voilà, vous connaissez la collection pour les nuls, on va faire des régions. Alors, vous vous rappelez, Yannick, que la collection pour les nuls s'est rendue célèbre pour l'histoire de France pour les nuls, le jardinage pour les nuls, l'informatique pour les nuls, le bricolage pour les nuls. Il y en a des dizaines et des dizaines. Et puis, cet éditeur a eu cette idée, qui est une riche idée d'ailleurs, de faire les régions pour les nuls, chaque région, avec son style, le style de cette collection, qui est une, on y reviendra d'ailleurs, qui est une collection qui fait des livres grand public avec beaucoup d'exigences. Alors, sur le concept même, les nuls, moi, j'avoue que j'étais un tout petit peu réticent, parce que je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire dans cette collection-là? Et j'ai accepté, évidemment, le rendez-vous, et ils m'ont fait très plaisir, parce qu'ils m'ont dit, voilà, on cherche quelqu'un pour faire la Bourgogne pour les nuls. Il faut savoir qu'à l'époque, ils avaient déjà fait l'Alsace, ils avaient déjà fait le Pays Basque, ils avaient déjà fait la Bretagne. Et donc, ils m'ont montré, justement, la Corse et la Bretagne pour... J'ai lu ça attentivement, je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est pas si mal. En tout cas, c'est absolument pas vulgaire, pas du tout grossier, pas du tout rigolo. C'est au contraire, je dirais, très, très américain, au fond. Le concept lui-même est américain. Et vous savez, les Américains, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais ils ont un don, ce sont des gens efficaces. Ils sont pragmatiques et efficaces. Alors, quand ils font un livre sur un sujet, c'est extrêmement contraignant, extrêmement exigeant. Mais le résultat est effectivement très précis. Et je dois dire, depuis que le livre est paru, on va y revenir aussi, que l'efficacité est au rendez-vous. Alors, ce fameux rendez-vous, je me dis, vous savez, moi, je ne sais pas très bien si je suis votre homme, parce que j'écris surtout sur les pays de l'Est et le Vatican. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas grand-chose à voir entre la Bourgogne et le Vatican, et entre la Bourgogne et les pays de l'Est. Mais il s'était renseigné, il savait, en effet, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que j'avais passé 3 ans de ma vie de l'autre côté de la barrière journalistique, si j'ose dire, c'est-à-dire comme directeur de l'information de la région Bourgogne, conseil régional. Et j'avais évidemment beaucoup appris pendant ces 3 ans, et j'avais appris surtout la région Bourgogne pendant ces 3 ans. Quand vous dirigez l'information et la communication d'une région, vous ne cessez de découvrir les aspects de cette région. Et donc, cet éditeur m'a dit, voilà, on cherche quelqu'un, est-ce que vous accepteriez de faire ça ? Je me suis dit, mais il y a certainement des professeurs de l'université de Bourgogne ou des universitaires très férus sur ces sujets-là. Il m'a dit, non, vous voyez, on cherche plutôt quelqu'un qui a une formation de journaliste. Alors, sur le moment, bon, voilà, j'ai dit, bah, pourquoi pas. En plus, j'étais flatté. Vous savez, on est toujours flatté hein, quand quelqu'un vous appelle en disant, vous êtes formidable. Bon. Et j'ai compris par la suite qu'en effet, le protocole de ces fameux livres pour les nuls est tellement contraignant, tellement précis, tellement compliqué qu'il vaut mieux en effet être journaliste que professeur d'université. J'ai tout le respect de la terre pour les professeurs d'université, je suis fils de professeur d'université, vous pensez bien, mais j'imagine justement que feu mon père ou ses collègues jamais ne se seraient lancés dans une aventure comme ça. Un universitaire, il a un rythme, il a des exigences, une profondeur qui l'empêche de faire cette espèce d'incroyable bricolage qui est un livre comme ça où on fait alors 12 lignes sur un sujet, ensuite on passe à un autre chose, il y a un encadré sur un troisième sujet, ensuite on fait 2 pages sur un autre, il y a 6 lignes ici, 12 lignes là, et c'est pas autrement. Sur le moment, c'est très difficile à faire. C'est vrai, il faut avoir une souplesse d'écriture. Alors c'est pour ça qu'on vient chercher des vieux comme moi qui ont 35 ans de métier et d'assouplissement du clavier, sans doute. Mais le résultat est là, c'est-à-dire que la Bourgogne pour les nuls, ça n'est pas un cours sur la Bourgogne, ça n'est pas une encyclopédie, ça n'est même pas un guide, ça n'est pas un essai, ça n'est même pas un
document. Ce n'est pas un dictionnaire amoureux.
Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une espèce de chose un peu curieuse où l'on feuillette, où l'on picore, où on prend son plaisir, on passe d'un sujet à l'autre, un petit portrait ici, une anecdote peu connue là, et puis on rentre dans une région, et puis on longe un fleuve, et puis on repart dans l'histoire. Et c'est ce qui fait le succès de cette collection. On picore, ça n'est jamais ennuyeux, quoi. Voilà, vous avez 400 pages, et vous vous baladez là-dedans, exactement comme dans une BD, comme dans une promenade, comme dans une fête foraine, vous allez un manège, vous allez à un autre. C'est ce qui fait le succès de cette collection et ce qui m'a évidemment un peu surpris au début et puis rassénéré par la suite. Je me suis bien amusé, moi, en écrivant ce livre.
On parle de la Bourgogne pour les nuls. Hein, c'est le titre du dernier ouvrage de notre invité Bernard Lecomte. Nous sommes avec lui jusqu'à 22h. petite escale musicale. Voici Oren et l'échappée belle.
Je t'ai pas tout dit. Je pars de Paris, perdu mon Paris. Je change de vie. Je veux pas ton avis. Je quitte le navire. Oui, je prends le large. Sois barge et suis-moi. Tu m'as fait l'échappée belle. Échappée belle avec toi. Or la loi, une jolie parenthèse avec toi. On filera à l'anglaise, on se cachera dans les bois. Ne reste pas de glace, je sens l'impasse, je passe à l'action là, je tourne en rond. Tomber le masque et lis le fantasque. Oui, je tente ma chance. Avance et suis-moi. Je me fais l'échappée belle. Échappée belle avec toi. Tu me feras la courte échelle. On sera des hors la loi. Une jolie parenthèse. Dans les bois. Je me fais l'échappée belle. Échappée belle avec toi. Tu me feras la courte échelle. Hors la loi, une jolie parenthèse avec toi. On filera à l'anglaise, on se cachera dans les bois.
Bourguignon de cœur, d'origine ou d'adoption, eh bien, vous pensiez bien connaître votre région au cœur des turbulences de l'histoire. Eh bien, feuilletez la Bourgogne pour les nuls, vous allez prendre conscience que votre culture est imparfaite. Hein. Saviez-vous qui était le chancelier Rollin, qu'Alexandre Dumas, Prosper Mérimée ou encore Jean d'Ormesson avaient écrit de très belles pages sur la Bourgogne? C'est dans cet ouvrage qui peut, à mon avis, être un formidable cadeau pour les adolescents comme les plus anciens. C'est l'occasion peut-être aussi d'être modeste et de, j'allais dire, comme vous le disiez, Bernard Lecomte, grignoter de l'information. C'est vrai que c'est formidable parce qu'on en apprend autant sur le monde du sport, sur, bien sûr, le vin, sur l'histoire, sur le patrimoine. C'est absolument exceptionnel. Alors, je me disais que le premier mode de travail du journaliste que vous êtes, Bernard Lecomte, ça a dû être quand même délagué. Il faut construire l'architecture, le squelette, et après, on essaie d'être synthétique. Ça doit être un travail... Moi, j'étais très admiratif, parce que j'ai appris énormément de choses. Je savais des choses, mais franchement, là, je vais pouvoir un peu briller en société. Et je me disais, mais mon Dieu, comme il a dû s'arracher les cheveux aussi, parfois.
Ben, vous savez, je dis parfois en rigolant, le premier des nuls, c'était quand même moi, d'abord, quoi. Hein, parce que quand j'ai pris la mesure... vous savez, on accepte comme ça une idée, on est très flatté, on signe un contrat, et puis après on se met au travail, et là on déchante, on se dit « Ouh là là, où est-ce que j'ai mis les pieds ?» Quand vous avez en effet sur votre bureau des dossiers qui commencent à s'empiler sur les départements, sur l'histoire, sur la géographie, la gastronomie, l'art, la culture, etc., À un moment, c'est une montagne que vous avez, parce que la Bourgogne, c'est une région grande comme la Belgique, qui a 4 départements aussi riches les uns que les autres, et qui a une histoire et une géographie extrêmement complexe, plus tout ce qui fait la richesse incroyable de cette région, c'est son patrimoine. Patrimoine historique, patrimoine climatique, patrimoine artistique, culturel, architectural, etc. Et quand j'ai commencé à voir monter ma pile, j'avais une montagne de dossiers devant moi, je me suis dit, je ne vais jamais y arriver, parce qu'en effet, comment je vais faire la synthèse de tout ça? Et c'est là où la forme de cette collection pour les nuls est assez exceptionnelle, parce que vous avez tellement de contraintes que quand vous acceptez, en effet, quand vous faites l'exercice de se plier à ce qu'ils vous disent, les éditeurs, c'est-à-dire, voilà, tel sujet, c'est plutôt 12 lignes, tel sujet, c'est plutôt une page, mais jamais plus d'une page, surtout. Et puis là, il faut un titre un peu rigolo, et puis là, il faut une introduction, puis là, il faut couper en 3, et puis là, il faut faire un petit portrait. Vous vous rendez compte que tout ça rentre un peu comme un jeu de Lego. Tous les petits bouts de Bourgogne, artistiques, culturels, historiques et géographiques, viennent s'imbriquer les uns dans les autres. Et finalement, au début, vous vous dites, mais comment est-ce que je vais remplir 400 pages avec tout ça? Et au bout de votre travail, vous vous dites, mais comment est-ce que je vais mettre tout ça dans 400 pages? Parce qu'à force d'avoir mis vos petits bouts de Lego ici ou là, vous avez de quoi faire 800 pages, 1000 pages, si vous voulez, sur une région comme la nôtre. Et la difficulté, à la fin, c'est justement de couper, d'élaguer, comme vous le disiez si bien, Yannick, c'est-à-dire d'arriver à un moment à quelque chose de cohérent, d'équilibré, parce qu'il ne faut pas non plus faire les 3/4 du livre sur Lyon et puis 1/4 sur les 3 autres départements, même quand on aime beaucoup Lyon, ce qui est mon cas. Voilà, il faut respecter les équilibres géographiques, les équilibres entre les grands sujets bourguignons, et puis aussi, bien sûr, les équilibres entre ce qui est très populaire, ce qui l'est moins, entre l'histoire et le contemporain, entre les disciplines artistiques, et aussi ce qui fait, bien sûr, une des grandes richesses de la Bourgogne, c'est-à-dire la gastronomie et le vin. Vous ne pouvez pas faire un livre sur la Bourgogne pour les nuls sans faire au moins 3 chapitres sur le vin, évidemment. Donc, vous voyez, c'est ce travail-là qui est assez amusant. Mais je reprends l'image, vous savez, j'étais avec un jeu de Lego incroyable et j'ai fini par faire mon livre de 400 pages.
En tout cas, l'ensemble est harmonieux et attrayant. Et vous parliez des titres, Bernard Lecomte. Alors, j'en ai relevé quelques-uns, par exemple. Bon, des pinceaux, des burins et des plumes. Du vin de messe au vin de business. On n'est pas des bœufs, mais on en élève des millions. Et alors, j'aime bien aussi Nevers. S'éduque, sa faïence, sa sainte, sa Formule 1. Ça pourrait être, disons, le slogan accrocheur d'une promotion pour la ville de Nevers.
Oui, tout à fait, vous avez raison. Ça, c'est le ton du livre. Vous savez, c'est pas... Il ne faut pas faire d'astuces pour faire des astuces. Ce n'est pas un livre humoristique, bien sûr. Mais ce ton-là, que l'on m'a bien expliqué, alors j'ai essayé de bien m'en sortir aussi, bien sûr, ce ton-là rassure. C'est-à-dire que le lecteur se dit, bon, ok, ce n'est pas fait pour des profs, ce n'est pas fait pour des gens extrêmement intelligents ou super éduqués. Non, c'est fait pour chacun d'entre nous, et chacun d'entre nous connaît certaines choses, en ignore d'autres, il ne faut pas avoir de complexe. Et ce genre de titre-là, vous voyez, il m'en vient un autre aussi à propos des ducs de Bourgogne, c'est « Et les voilà les Valois ». Voilà, bon, bah, c'est rigolo. Mais quand vous lisez ça, vous savez, c'est ça la vraie pensée de l'éditeur. C'est que quand vous lisez ça, vous êtes mis en confiance, quoi. Hein, c'est pour vous. Bah oui, on peut aussi sourire en parlant des ducs de Bourgogne. On n'est pas là non plus pour se prendre la tête.
Magnicourt, la Formule 1 au milieu des Charolais. J'aime bien aussi celui-ci. Jacques Coeur, plus riche, tu meurs. Bernard Thévenet, un Charolais en danseuse. Leslie Caron, Hollywood au bord de Lyon. L'annonce faite à Auxerre. Le Kir, l'apéro du chanoine. Et puis un tramway nommé Dijon. C'est quelques-uns parmi d'autres. Alors je voudrais quand même dire, donc, cette Bourgogne, vous l'avez dit, Bernard Lecomte, 4 départements, plus d'1,5 million d'habitants. Plus de 30 000 kilomètres carrés, ce qui représente une densité de population de 52 habitants au kilomètre carré. Et alors, le Morvan a été sacrifié, Bernard Lecomte, parce que le Morvan qui, finalement, recouvre les 4 départements de la région, le Morvan a manqué son destin ou a manqué son rendez-vous.
Oui, c'est une facétie de l'histoire, probablement, de l'histoire et de la géographie. Le Morvan, c'est au fond l'emblème de la Bourgogne. Vous voyez sur la carte, quand vous mettez la carte de la Bourgogne, le Morvan, c'est tout ce qui est au milieu. ce qui est au milieu et ce qui est un peu plus élevé. Hein, le Morvan, vous vous rappelez, sur nos cartes de géographie de l'école, c'est l'espèce de petit morceau, le doigt du massif central, là, qui part dans le centre de la France. Ce Morvan, il est très cohérent sur le plan historique, géographique, climatique. Le Morvan, c'est une grande forêt avec des vallées, avec un petit peu de montagne, pas très haute, mais on y fait du bois, c'est la ligne de partage des eaux, c'est là où, dans l'histoire, par exemple, c'est là où Paris allait chercher son bois. Mais aussi,
où ses nourrices.
Mais j'allais dire, aussi ses nourrices, en effet. Il y a toute une histoire du Morvan qui est très cohérente avec ses flotteurs, avec ses galvachés. Les galvachés, c'était une espèce de taxi du Moyen-Âge. On partait avec les bœufs, on allait porter des marchandises jusqu'en Angleterre, et puis on revendait les bœufs là-bas, puis on repartait au pays. Ce Morvan a son histoire, une très belle histoire, sa cohérence, sa beauté, parce que franchement, le Morvan, c'est quand même une très très belle région. Et alors, je disais facétie de l'histoire, parce que dès le départ, le Morvan a été coupé en deux ou en quatre par les différentes entités politiques qui se sont partagées la Bourgogne. Déjà au moment de l'Empire romain, ensuite au moment des ducs, puisque quand la France se constitue, il y avait les duchés, le royaume de France, etc., il faut se rappeler que le Morvan est coupé en deux. D'un côté, vous avez les ducs de Bourgogne, dont la capitale est Dijon, et qui entendent bien régner sur toute cette partie. Puis de l'autre côté, vous avez un autre duché, dont les Dijonnais d'ailleurs parlent très peu, parce que parfois même ils l'ignorent, c'est le duché de Nevers, grand duché, qui arrive lui aussi avec un petit bout du Morvan. On arrive à la Révolution, qu'est-ce qui se passe? Le duché de Bourgogne, évidemment, c'est fini, c'est déjà du passé. On a une province qui devient aussi du passé, parce que les révolutionnaires créent les départements. C'est évidemment un tournant pour toutes nos régions. Et nous, en Bourgogne, nous voyons apparaître quatre départements, qui sont les quatre départements d'aujourd'hui, donc l'Yonne, la Saône-et-Loire, la Nièvre et la Côte d'Or, et qui vont se partager, en quelque sorte, le Morvan. L'idée aurait pu être de faire du Morvan un département, ça aurait été assez cohérent. Mais il s'avère qu'une fois de plus, on va jouer avec cette géographie. La Nièvre va avoir du Morvan toute une partie, notamment la partie Saint-Honoré-les-Bains, etc., qu'on connaît bien. L'Yonne, comme vous le savez particulièrement, c'est toute la partie Carré-les-Tombes et tout le sud de cet endroit. Et puis la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, eux aussi, si on parle des départements, vont se partager le Morvan. Alors le Morvan est coupé en quatre. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que chacun des quatre départements de la Bourgogne se revendique morvandiaux. C'est-à-dire que chacun est très fier d'avoir le Morvan dans son horizon touristique. Évidemment, le Morvan, c'est tellement beau que chacun a envie d'en avoir une partie. Alors c'est vraiment le destin curieux de ce département dont j'ai fait, moi, dans mon livre, le cinquième département de la Bourgogne. C'est évidemment une façon de parler, puisqu'il n'y a que quatre départements en Bourgogne, c'est clair, mais le Morvan aurait bien mérité d'être le cinquième département.
C'est surprenant d'ailleurs que chacun des quatre départements de la Bourgogne ait voulu revendiquer une petite portion du Morvan, puisqu'on dit tout le temps que du Morvan ne vient ni bon vent ni bonne gens. En tout cas, pour nous, c'est le moment de voir venir une nouvelle petite pause musicale. C'est Jennifer et les Jours électriques. Nous retrouverons Bernard Lecomte, qui est notre invité, dans une poignée de minutes. Il est avec nous pour La Bourgogne pour les nuls aux éditions FUST. Bonne soirée sur Radion. On se retrouve dans un tout petit instant.
Je suis l'est, un jour à l'ouest. Tous les jours sont électriques.
Bernard Lecomte est devant notre micro ce soir et en sa compagnie, nous faisons un petit tour, ou même un grand tour de la Bourgogne, de Dijon à Mâcon, de Lyon à la Nièvre, en passant par le Morvan. Ça y est, le Morvan, c'est, l'étape est faite. La Bourgogne pour les nuls, c'est son dernier travail que l'on peut se procurer en librairie aux éditions First. Alors, Bernard Lecomte, évidemment, on vous a entendu nous expliquer combien la tâche avait été à la fois passionnante mais aussi ardue. Vous écrivez page 189, mais en toute subjectivité. Ah, vous parlez des musées. S'il fallait n'en visiter que deux, ce qu'à Dieu ne plaise, il faudrait sans doute aller passer un peu de temps au musée des Beaux-Arts de Dijon et au musée Zervos de Vézelay. Alors, la difficulté aussi, c'est... d'essayer de satisfaire tout le monde, de ne pas s'attirer des inimitiés, des antipathies, de n'oublier personne. Vous avez fait appel à des correcteurs, on vous a aidé, on vous a dit « attention Bernard, pense à ceci, pense à cela » ou vous êtes fié à votre capacité mémorielle ?
Alors, vous mettez le doigt sur la principale difficulté que j'ai eu à résoudre, c'est qu'en effet, on se rend compte quand on écrit un livre comme ça, au bout de quelques temps, qu'on n'arrivera pas à tout mettre. Que c'est totalement impossible de vouloir décrire, par exemple, de citer les artistes. On a une région formidable sur le plan de la création. Il y a des artistes, des sculpteurs, des peintres, des musiciens, des écrivains, il y en a partout en Bourgogne, qui est une région vraiment qui inspire visiblement et qui forme des générations d'artistes. Et là, je me suis dit, je ne peux pas parler de tout le monde. Je ne peux pas citer toutes les salles de spectacle, tous les festivals. Regardez les festivals, simplement. Chaque été en Bourgogne, il y a des centaines. C'est pas des dizaines, c'est des centaines de festivals. Donc, quand vous faites un livre comme ça... Vous risquez l'apoplexie et vous évitez surtout d'en faire un guide exhaustif. Ça n'aurait pas de sens. Ça serait une espèce de gros bottin avec des tas de choses qui, d'ailleurs, seraient très vite dépassées parce que toute cette vie artistique, culturelle est tellement riche qu'elle change tout le temps. Donc, d'une année sur l'autre, il faudrait changer le quart des indications. Alors, le choix, il est de porter... le regard sur tel ou tel château, tel ou tel poète, tel ou tel peintre, tel ou tel musée, comme vous venez de le citer, de façon en effet subjective. Il n'y a pas d'autre formule. Vous êtes obligé de vous fier à votre subjectivité, à votre propre sensibilité, et puis, qui même me suive, il est parfaitement naturel que quelqu'un, par exemple, en lisant le bouquin, se dise « Oh, quand même, l'auteur est gonflé, il n'a pas parlé de tel musée ou il n'a pas parlé de tel festival. » C'est tout à fait naturel et j'accepte absolument toutes les critiques sur ce plan. Il fallait choisir, et donc, vous voyez, prenez les châteaux ou les grands rendez-vous, vous avez un problème en Bourgogne, il y a des centaines de châteaux, c'est pas encore une fois des dizaines, c'est des centaines de châteaux. Donc l'éditeur à une formule comme ça qui s'appelle les chapitres des 10 et qui vous dit, voilà, quels sont les 10 principaux châteaux. Bon, ben, vous savez, les 10 principaux châteaux de la Bourgogne, c'est très difficile à faire une liste de 10. Vous allez avoir immédiatement les grands châteaux les plus connus qui vont venir à l'esprit, de La Roche-Peau à Saint-Fargeau, chez nous dans l'Yonne, en Sille-Franc, etc. Et puis, très vite, vous allez vous dire, il faut que je choisisse. Hein, et donc voilà, j'ai fait un choix pour les châteaux, j'ai fait un choix pour les musées, pour les artistes, j'ai fait à chaque fois un choix avec le souci d'être juste au sens d'être équilibré, c'est-à-dire de ne pas oublier le sud ou le nord de la région. Moi j'habite le nord de la région, j'ai fait très attention évidemment à ne pas oublier la Saône-et-Loire ou le sud de la Nièvre. Les châteaux, après tout, nous dans l'Yonne on en a beaucoup, moi j'habite en Puisaye, il y en a presque un par village, mais enfin... encore une fois, la région Bourgogne a tellement de richesses qu'il fallait aller picorer ici et là.
Alors, vous parlez de la GIA, vous rendez hommage à Guy Roux. Alors bon, moi, je ne suis pas très doué en football, mais j'y ai appris justement qu'il avait... Enfin, je savais, mais qu'il avait hissé Auxerre par 9 fois au niveau européen, avec des Coupes de France gagnées en 94, 96, 2003 et 2005. Et vous écrivez, Bernard Lecomte, en parlant de la GIA à l'heure actuelle, vous écrivez « Le club auxerrois aura du mal à retrouver un équilibre ». Est-ce que vous ne prenez pas un risque, là, en écrivant ceci ?
Bah écoutez,
et si les faits vous démentaient ?
Yannick, vous prenez Lyon Républicaine, ce que je fais moi tous les jours dans ma boîte à lettres, et vous lisez les nouvelles de la GIA, et vous voyez que, très franchement, ça n'est pas un grand scoop que de dire que la GIA aura du mal à retrouver un équilibre comme du temps de Guy Roux. Et c'est tout à fait normal. Moi, j'attaque personne dans cette affaire. Il faut être tout à fait simple avec les choses. Les faits sont les faits. La GIA a eu une histoire absolument formidable. Hein, depuis l'abbé Deschamps, depuis 1906, c'est une histoire extraordinaire. Cette histoire se transforme à un moment en épopée lorsque un entraîneur nommé Guy Roux emporte ce club jusque dans les hauteurs européennes. Bon, voilà, je le constate, tout le monde le sait, et ça n'est pas péché que de dire aujourd'hui, bah, la GIA est quand même retombée de haut, et la GIA aura incontestablement du mal à retrouver l'équilibre qu'elle a eu à une époque de son histoire.
Alors, on sent que vous avez été attaché à la communication de la région Bourgogne, page 59, vous écrivez, après avoir évoqué le passé médiéval de la Bourgogne, les ducs de Bourgogne, la richesse de cette époque un peu béni qui reste dans les mémoires, un peu comme une image d'Épinal, vous écrivez « Une agence de communication moderne n'aurait pas trouvé mieux pour perpétuer à l'extérieur du duché une image magnifique de la Bourgogne, de son apparat unique en Occident et de son prestigieux souverain. » Alors je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas parfois quelques petits coups de griffe implicites que Bernard Lecomte donne sur le fait que notre région Bourgogne mériterait aujourd'hui d'avoir une communication plus audacieuse et, j'allais dire aussi, plus ambitieuse.
Alors, vous avez, il y a deux parties dans votre question. Coup de griffe, non. Franchement, quand on fait un livre comme ça, ce n'est pas un essai, on n'amène pas son avis. Mais vous le disiez vous-même tout à l'heure, un auteur est toujours subjectif. Bien sûr, quand vous voyez, par exemple, à quel point un certain nombre de communicants en public, en Bourgogne, communicants de pouvoir public en Bourgogne, sont un peu obsédés par le temps des ducs de Bourgogne et les ducs ceci et les ducs cela. Bon, moi, bien sûr, j'ai le plus grand respect pour l'époque des ducs de Bourgogne, qui a été une très grande époque. Enfin, je me dis, attention, restons calmes. D'abord, les ducs de Bourgogne n'ont pas... ne vivaient pas à Dijon. Il y en a deux qui sont enterrés, mais enfin, les ducs de Bourgogne, ils étaient surtout en perpétuelle bagarre entre Bruxelles, Bruges et Gand. Ils ont fait de la Bourgogne une région incroyablement puissante et riche, plus puissante que le Royaume de France. Très bien, tout ça est formidable. L'histoire de la Toison d'Or, c'est une histoire magnifique. Mais enfin, j'ai un peu tendance à croire qu'aujourd'hui, on se satisfait un peu trop de cette image-là, parce que, voilà, le palais des ducs et les ducs, etc. Alors que je crois que la Bourgogne, d'une part, et Dijon, sa capitale administrative, d'autre part, ont quand même bien d'autres atouts et qui sont, en effet, parfois sous-exploités. Quand on travaille l'image de la Bourgogne à l'extérieur, c'est les ducs de Bourgogne et le vin. Vous savez, allez, posez la question à des Allemands, des Anglais ou des Japonais ou des Chinois aujourd'hui, c'est ça, c'est les ducs de Bourgogne et le vin. Et j'ai tendance à penser que la Bourgogne, c'est plus riche que ça. Il y a beaucoup plus de choses à vendre, y compris dans le présent. Parce que on est toujours un peu trop tenté aussi de faire valoir le passé d'une région mirifique, magnifique, etc. Il y a une mythologie formidable, très bien. Aujourd'hui, la Bourgogne, croyez-moi, elle a beaucoup d'atouts. Et en effet, elle ne met pas toujours ses atouts en valeur.
Alors c'est la raison pour laquelle, page 130, on peut lire sous votre plume, Bernard Lecomte, « Innover, innover sans cesse ». Et là, je crois qu'effectivement, la boucle est bouclée. Il faut innover.
Il faut innover.
Ne pas s'endormir sur ses lauriers du passé.
Voilà. Vous savez, on est dans une période de... On devient très sérieux là d'un seul coup, Yannick. Mais c'est vrai, on est dans une période de mondialisation. La mondialisation... Alors, les Bourguignons, ils sont tellement heureux de vivre en Bourgogne en général, qui est une région en effet riche. Et ça ne veut pas dire qu'elle est forcément économiquement prospère, mais riche au sens de son sol, le bois, l'eau, le charbon, le cassis, le vin, les charolais, les poulets de Bresse, etc. Franchement, la Bourgogne est une région qui est bénie des dieux, quoi. Et on est tellement, au fond, un petit peu replié sur cette richesse-là, sur cette chance que nous avons de vivre dans une région comme ça, qu'on oublie parfois un petit peu le reste du monde. Hein. Il faut dire, les Bourguignons ont des qualités et des défauts. Parmi ces défauts, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a celui-là. On oublie un petit peu le reste du monde. Or, le reste du monde, c'est ce que c'est que le mot Bourgogne. C'est du vin. Bourgogne, c'est du vin. Bon, alors les gens, les Chinois ou les Américains les plus cultivés, évidemment, se disent « Ah ben Bourgogne, c'est aussi, alors soit les ducs de Bourgogne, justement, et ils ont lu, je sais pas quoi, la mort de Charles le Téméraire, que sais-je, ou bien c'est les monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO ». Ben évidemment, il y a énormément d'étrangers qui connaissent Vézelay. Hein, il ne faut pas être bourguignon pour connaître Vézelay. Ou la Charité-sur-Loire, n'oublions pas que les deux
monuments... L'abbaye de Fontenay.
Et l'abbaye de Fontenay et bien d'autres lieux, Cluny, Citeaux, qui sont des lieux évidemment emblématiques.
Du tourisme spirituel.
Tourisme spirituel, on peut appeler ça comme ça. Vous savez, quand... Là je reviens en voiture par l'autoroute. Vous savez, quand vous traversez la Bourgogne et que vous passez par Cluny, Citeaux, Thésée, Fontenay, Vézelay, que vous arrivez au large de Carré-les-Tombes, que vous passez non loin des deux cathédrales d'Auxerre et de Sens, et que vous arrivez dans mon petit village qui s'appelle Saint-Denis, et qui est à côté d'un autre qui s'appelle Saint-Martin, vous vous dites quand même que la Bourgogne doit quand même beaucoup à son épopée religieuse. Donc le tourisme spirituel, ça n'est pas négligeable. Il y a beaucoup de gens qui sont soit un peu touristes et beaucoup pèlerins, soit beaucoup touristes et un peu pèlerins. Quand vous allez, prenez un exemple, Parelmonial, qui est donc une des grandes villes de la Saône-et-Loire, on se dit, ah bah oui, Parelmonial, il y a effectivement une église formidable. Non, c'est pas ça. Il y a une chapelle de la Visitation à Parelmonial où 1 million de personnes vont tous les ans. Alors, est-ce que ces personnes-là sont des touristes ou des pèlerins ? Un peu les deux, mon général. On dirait, vous savez, c'est un petit peu comme un endroit que je connais bien, évidemment, qui est la place Saint-Pierre à Rome. Quand vous voyez les gens qui sont sur la place Saint-Pierre, c'est quoi ? C'est des catholiques ou pas des catholiques ? On ne sait pas. Ils sont à moitié pèlerins, à moitié touristes. C'est un petit peu pareil en Bourgogne, à Parelmonial. C'est un peu pareil à Vézelay. C'est un peu pareil à Nevers, où repose la chasse de Bernadette Soubirous, où il y a des centaines de milliers de gens qui vont la voir tous les ans. Tous ces endroits qui font mémoire font aussi recette, hein, quelque part. Cluny, qui était la capitale religieuse du XIe siècle, Cluny aujourd'hui, c'est un des endroits les plus visités de la Bourgogne. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent dans l'Yonne à aller un jour passer un week-end là-bas, dans le sud de la région. N'allez pas au bout du monde si vous avez un beau week-end à passer. Prenez la voiture, descendez l'autoroute, à Mâcon, vous sortez et vous allez visiter Cluny, les environs de Cluny. Vous allez voir la roche de Solutré, vous faites quelques petites églises romanes. Là, vous allez voir, vous allez passer un week-end absolument prodigieux. C'est ça la Bourgogne aussi.
À 3 semaines de Noël, en feuilletant le livre de notre invité Bernard Lecomte, vous y apprendrez que sur les 5 millions de sapins de Noël naturels vendus chaque année, plus d'un million de ces arbres proviennent du Morvan, première région productrice au niveau national. C'est donc dans la Bourgogne, parlez-nous, parmi beaucoup, beaucoup d'autres informations dont fourmille l'ouvrage dont nous parlons ce soir. On se retrouve dans quelques minutes. Tout de suite, Sophie Tiff avec un titre anglais. Attention, « Sorry seems to be the hardest word ».
What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care?
What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there. What have I gotta do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me? What have I gotta do? What have I gotta do when sorry seems to be the hardest word? It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad. Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Yes, the hardest word.
N'oubliez pas le coup de cœur de notre libraire partenaire Evelyne Levallois en fin d'émission vers 21h50. Vous savez, Bernard Lecomte, que dans Wagon Livre, nous essayons, mais je crois que c'est un combat que vous défendez avec Evelyne Philippe également, avec beaucoup de conviction et de sincérité, on essaie de vraiment d'inviter nos auditrices et auditeurs à soutenir les quelques libraires qui restent non seulement dans Lyon, mais aussi en Bourgogne, parce qu'ils se font rares, hein, les libraires.
Vous savez, depuis une dizaine d'années, on prend peur à voir tant de libraires fermés les uns après les autres. Moi, j'avoue que je suis très choqué quand j'apprends qu'un libraire va fermer. À Dijon, 6 libraires ont fermé depuis 7 ans. Presque un par an, vous vous rendez compte?
Oui, grande ville universitaire.
Grande ville universitaire, capitale de la région. Et quand vous pensez, nous, dans Lyon, que Joigny, qui est la troisième ville de Lyon, va voir fermer la librairie Berger. Et donc, voilà une ville, qui c'est pas un village, Joigny, c'est une grande ville, avec un passé, avec des habitants, etc. Il n'y aura plus un seul endroit où on pourra acheter des livres. Mais vous savez, c'est vertigineux. Ça veut dire que derrière, comme ça, quelques informations, on voit bien qu'il y a une crise très forte, une crise culturelle. Évidemment que c'est une crise économique, on le sait bien. Mais enfin, on n'a pas fini de mesurer les conséquences de ça. Alors je sais bien qu'on va me dire, mais maintenant on peut commander les livres sur Internet, tout ça c'est vrai, c'est pas le sujet de notre émission, on pourra y revenir un jour. Mais franchement, moi je lance un appel, tenez, je profite de votre micro Yannick, si vous connaissez quelqu'un qui a envie de reprendre une librairie, qu'il aille à Joigny, qu'il se renseigne, la librairie Berger est à reprendre, et ça serait tellement formidable de voir cette librairie revivre à partir de l'an prochain.
Bernard Lecomte, merci pour cet appel. Revenons à la Bourgogne pour les nuls. Alors, Bien évidemment, vous passez en revue un très grand nombre de figures bourguignonnes. Je pense à la grande mademoiselle, donc cousine de Louis XIV, qui a été condamnée à l'exil, puisqu'elle avait finalement choisi le mauvais camp. Enfin, elle s'était rebellée aux côtés des princes, hein, dans cet épisode de la Fronde.
Voilà, contre le futur Louis XIV, qui cousin. Ne lui a pas pardonné. Voilà.
Alors, il y a Gabrielle Suchon. Un petit mot peut-être justement sur ces femmes moins connues. Alors, Gabrielle Suchon, c'est un peu l'origine d'une forme de féminisme ou du féminisme ?
Tout à fait, on peut parfaitement dire ça. Gabrielle Suchon, c'était on dirait aujourd'hui, une petite nana de Smur-en-Auxois à qui on a dit, voilà, tu vas aller au couvent, c'est comme ça, c'est pas autrement, et qui a dit non. Elle avait d'autres ambitions, et elle va résister à ses parents, résister à son entourage, fuir d'ailleurs, revenir à Smur et réussir. Nous sommes sous Louis XIV, hein, nous sommes sous Louis XIV. C'est très ancien et à l'époque ça se faisait pas. Et elle va devenir, au fond, institutrice. Ce qui est tout à fait incroyable à l'époque. Et elle va écrire, elle va avoir deux livres qui sont en effet, on peut le dire, les précurseurs du féminisme. Bien avant Olympe de Gouges, bien avant les suffragettes, bien avant nos féministes du XXe siècle, la petite Gabrielle Suchon, à Smur-en-Auxois, avait lancé ce mouvement, en quelque sorte.
Une autre femme, et je sais que vous l'appréciez, que vous l'aimez beaucoup, Bernard Lecomte, c'est Jeanne Barret.
Ah, Jeanne Barret, c'est aussi... vous savez, il y a beaucoup de bourguignonnes comme ça, peu connues, qui ont des destins inouïs. Jeanne Barret, c'était une brave petite jeune femme qui aurait dû rester dans sa ferme à côté d'Autun pendant toute sa vie, qui tombe amoureuse de l'homme qui l'a engagée pour s'occuper de ses enfants. Et cet homme est un savant. Et ce savant, botaniste, va partir au bout du monde... Et comme il est amoureux d'elle, parce que les deux, au fond, se sont trouvés, ils sont très bien ensemble, il va l'emmener au bout du monde sur les bateaux qui n'acceptaient à l'époque aucune femme. Il va emmener sa servante, amante et quasiment sa compagne, déguisée en homme. Et Jeanne Barret va faire le tour du monde. À une époque où, encore une fois, on en est aux grandes découvertes, on ne connaît pas encore toute la planisphère, etc. Et donc, son destin est un destin inouï, parce que, je crois que j'emploie l'expression à peu près comme ça, c'est la première femme à avoir fait le tour du monde.
Alors, il y a bien sûr les incontournables, je pense à Vauban, Bossuet, qui est né à Dijon en 1627. Alors, vous parlez de Rousseau et du concours de l'Académie de Dijon, qui, au XVIIIe siècle, avait posé cette question, le rétablissement des sciences et des arts a-t-il contribué à corrompre ou à épurer les mœurs ? Donc, notre Jean-Jacques Rousseau avait commis donc un texte pour répondre à cette question de l'Académie de Dijon. Et vous écrivez, ça m'a fait sourire, je ne le savais pas, qu'il n'était jamais venu à la remise de son prix à Dijon en 1750.
Oui, il ne faut pas trop le répéter, parce qu'à Dijon, c'est vrai que j'ai quelques amis là-bas qui sont très fiers de ça. Et l'Académie de Dijon, aujourd'hui encore, perpétue ce souvenir, qui est quand même, c'est pas rien d'avoir été au fond visionnaire au point d'attribuer ce prix à celui qui va devenir Jean-Jacques Rousseau. Eh bien... Quand on regarde, on se dit effectivement qu'il y a une petite injustice quelque part, parce qu'en effet, il n'est jamais venu, il considérait que c'était pour lui déjà du passé. Moyennant quoi, on a célébré, on a commémoré plus exactement ce souvenir à Dijon. Après tout, c'est un bon point pour les Dijonnais d'avoir reconnu avant tout le monde la grande qualité de cet homme.
La Bourgogne des dinosaures à nos jours, c'est au programme de La Bourgogne pour les nuls, l'ouvrage de Bernard Lecomte qui est notre invité ce soir. On y découvre comment Vercingétorix a été vaincu à Alésia, on y découvre encore comment Gustave Eiffel imagina la tour qui porte son nom, mais encore comment on prépare un vrai bœuf bourguignon, parce qu'il y a une section gourmande et moult précisions et informations qui consolideront votre culture sur la Bourgogne. On se quitte quelques minutes seulement, voici les bébés brunes et aficionado. On se retrouve avec Bernard Lecomte, notre invité, juste après la pause musicale que nous vous proposons.
Et s'en vont, viens, t'as la couleur de la nuit. Ça se fait rare par ici. Tu dois savoir de tout te défendre, comment plonger pour de bon. Voir. cheveux blonds divaguent et s'en vont. Elle, sans ce sens, a celle senti. Amour transi, le vent nous souffle. Quoi se répondre? On se mouillera jusqu'au front. Voir comme se destine. Le grand ciel est la cime.
Le drapeau de la Bourgogne vissé dans le nombril. Il est l'auteur aux éditions First de La Bourgogne pour les nuls. Le journaliste et écrivain Bernard Lecomte est ce soir, pour notre plus grand plaisir et pour quelques minutes encore, devant notre micro, parce que le temps passe très vite avec les passionnés. Alors, Bernard Lecomte, il reste 3 minutes. J'ai envie de vous demander très simplement un petit mot de conclusion, à la fois sur ce livre et peut-être sur la Bourgogne. Voilà, il va falloir élaguer et synthétiser en 3 minutes. Bernard Lecomte.
Ben, je vous dirais, alors je ne vais pas vous faire évidemment le couplet sur la Bourgogne est une région magnifique, c'est évident. La Bourgogne est une région qui est une immense région, donc, et on se demande toujours, mais qu'est-ce qui unit les gens de Sens aux habitants de Mâcon, les gens de la Bresse à ceux de la Puisaye, etc. C'est une région quand même très très diverse. On se rend compte qu'il y a un sol, un climat, une géologie, une histoire, une géographie qui font, en effet, de la Bourgogne une région où il fait bon vivre. C'est une région de passage. On sait bien que depuis des temps immémoriaux, la Bourgogne, c'est là où on passe quand on va du nord, c'est-à-dire l'Angleterre, grosso modo, à la Méditerranée. On passe par les canaux, par les routes, par les tacos, par le train, par le TGV, par l'autoroute, voilà. Et on s'arrête en Bourgogne. Et la Bourgogne, c'est une région où l'on s'arrête. Et donc, forcément, qui sait accueillir? Qui sait accueillir par ses restaurants, qui sait accueillir par sa gastronomie, par son vin, bien sûr, par ses bons produits. Et aussi, il faut le dire, et j'ai un peu découvert moi-même ça en travaillant sur l'histoire de la Bourgogne et son histoire politique notamment. C'est une région où l'on est tolérant, tout simplement parce qu'à force d'accueillir les autres, on finit par comprendre un petit peu son prochain. C'est une région qui n'aime pas les extrémismes. C'est une région qui n'a pas connu la même Saint-Barthélemy qu'ailleurs, la même terreur qu'ailleurs. La guillotine ici a très peu fonctionné, un petit peu quand même, mais très peu. C'est une région où on aime la modération, où on sait accueillir, où l'on se partage. On va bientôt arriver au municipal, vous verrez. Yannick, les municipales en Bourgogne, ça sera comme d'habitude des gens plutôt de centre-gauche qui vont disputer les villes avec des gens plutôt de centre-droit. Il y a très peu de violence, il y a très peu d'extrémisme, il y a très peu de racisme ou d'intolérance dans notre région qui, encore une fois, est habituée à accueillir son prochain. Et ça, c'est quand même une chance pour une région aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est d'avoir cette vision du monde qui est une vision modérée tolérante, c'est quand même très positif.
Merci Bernard Lecomte. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage aux éditions First, c'est « La Bourgogne pour les nuls », un livre à s'offrir, un ouvrage à offrir pour les fêtes, pour être encore et toujours plus fier d'être bourguignon, un ouvrage qui fourmille d'informations pour faire le tour de la Bourgogne, de son histoire, des origines à nos jours. Et pour passer en revue les traditions, les spécialités culinaires, hein. J'ai appris par exemple qu'il ne fallait pas confondre charolais et charolais, charolais avec un L et charolais avec deux L, c'est dans l'ouvrage.
Selon que c'est un bœuf ou un mouton.
C'est dans l'ouvrage de Bernard Lecomte. Merci Bernard d'avoir été devant le micro de Wagon Livre. Je rappelle quand même quelques-uns de vos récents ouvrages, Les secrets du Vatican, Les derniers secrets du Vatican. Il était une fois La Puisée Forterre, disponible aux éditions de Bourgogne, dont vous êtes le directeur éditorial. Et puis, on rappellera quand même, en format de poche chez Folio, votre remarquable biographie de Jean-Paul II. Peut-être aura-t-on l'occasion d'en reparler à l'occasion de la canonisation de l'ancien pape, hein, mort en 2005. Je rappelle que sa canonisation aura lieu le 27 avril 2014, soit une semaine après Pâques. Un petit mot rapide, Bernard Lecomte.
Je serais très heureux de revenir à votre micro pour en parler.
On pourrait parler de Jean-Paul
II
l'année
fait,
prochaine.
C'est une très bonne
Allez,
idée.
Le rendez-vous est pris. Et le moment, cette fois-ci, merci Bernard Lecomte, le moment est venu d'accueillir notre libraire partenaire, Evelyne Levallois.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Yannick. Alors ce soir, Compagnie K de William Marsh sera mon chouchou. C'est publié aux éditions Gallmeister. Ce titre est écrit par un auteur américain qui est un vétéran de la Première Guerre mondiale. La première édition américaine date de 1933. Ça n'avait jamais été publié en France. Heureusement qu'il y a le centenaire de 14-18 pour qu'on réédite des titres forts comme cela. Hein, donc, William Marsh, vétéran des tranchées, s'engage à 17 ans. Il a reçu toutes les grandes distinctions militaires américaines et il va rentrer au pays après un an de guerre sans jamais vraiment s'en remettre. Hein. Il va mettre 10 ans à écrire ce livre. La force du livre, c'est que ça n'est pas une autobiographie. Il imagine une compagnie, d'où le titre, Compagnie K, où il y aurait 117 jeunes gars américains qui n'ont jamais voyagé en dehors de leur pays, c'est tous des paysans, hein. ils sont jamais sortis de chez eux, et ces 117 gars racontent un petit épisode, un truc qui les a marqués pendant la guerre. Alors c'est toujours des petits récits en une page, parfois deux, hein, c'est vraiment très court, et au début, leurs remarques sont assez anodines, c'est « j'aimerais bien manger de la viande, ça fait très longtemps que j'en ai pas mangé », hein, des petites choses comme ça, ou « ma maman me manque », ou « la nature elle est formidable en France », des petites choses comme ça, assez anodines, assez communes. Et puis, plus ça va aller, hein, plus les récits, plus les témoignages vont se faire douloureux, parce qu'il y en a qui disparaissent, parce qu'on les oblige à faire des choses qu'ils n'ont pas très envie de faire. Par exemple, à un moment, on va leur demander d'abattre les prisonniers allemands, parce qu'on a peur que si on met des prisonniers allemands derrière la ligne de front, eh ben, qu'on soit pris en sandwich, hein, que ce soit un piège. Donc on décide de les abattre. Et donc ces gars racontent ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut parfois avoir des points de vue différents sur un même événement. Donc un vrai travail d'écriture, 117 témoignages qui sont tous fictifs, mais qui raconte quand même quelque chose de très fort sur la guerre. C'est composé comme une mosaïque, mais ça progresse vers l'indicible et vers l'horreur de la guerre. Rien à redire, hein, sur Compagnie K de William Marsh, très beau roman sur cette Première Guerre mondiale aux éditions Gallmeister.
Merci Evelyne pour ce coup de cœur. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, 11 décembre.
Avec grand plaisir.
Le 11 décembre, nous serons avec Loïse Lavallée, auteur québécois qui était en résidence d'écriture à la Maison Jules Roy, et nous aurons avec elle l'occasion de parler de Héloïse Poste-Restante, qui nous amènera à parler de l'amour maternel. C'est mercredi 11 décembre à partir de 21h à bord de Wagon Livre sur Radio. Je vous laisse, je dois répondre au téléphone. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. À mercredi prochain. Au revoir.